Amen. Tout comme merci David et merci à tout le monde. Merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble dans l'adoration et aussi dans l'écoute de sa parole. J'aimerais ce matin, en tout cas, nous inviter à la veille du déconfinement suite au confinement imposé dans le monde entier. Et à réfléchir un peu sur notre liberté. La liberté, même si c'est une liberté limitée, individuelle, demain, à partir de demain, ça nous fait plaisir de retrouver la nature, le soleil et aussi les uns les autres, voilà, prendre de l'air. Et en réfléchissant sur notre liberté, demain, c'est comme si le Seigneur avait mis le monde dans un jubilé forcé. L'environnement a pu se reposer 49 jours. Les prisonniers ont été libérés dans tous les pays. Dans tous les pays, nous voyons que quelques prisonniers ont été libérés. Et ensuite, nous voyons que le texte de Lévitique 25, versets 1 à 55, nous parle du jubilé. Après 49 ans, on doit libérer les prisonniers, on doit libérer les esclaves, on doit laisser la terre se reposer. Et nous voyons d'une manière ou d'une autre que notre monde a pu se reposer un peu de tout ce qui être difficile pour lui. Voilà, donc pour nous amener dans ce texte, j'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens 10, versets 23 à 33, qui nous parle de liberté. Et dans ce passage, Paul va s'appuyer sur ce texte pour inviter les chrétiens de Corinthe à faire bon usage de leur liberté, en donnant des conseils pratiques, s'appuyant sur les principes essentiels qu'il va énoncer, ne faire que ce qui est utile et qui édifie les frères et les sœurs, au verset 23, et de toujours tenir compte de l'intérêt d'autrui. Paul appelle à ses frères et sœurs de ne pas utiliser leur liberté d'une manière égoïste, mais dans l'amour afin d'éviter des scandales, que ce soit chez les non-croyants ou les croyants. Afin de mieux tirer des enseignements, en tout cas pour nous, des exhortations pour nous, et nous allons d'abord lire le texte et ensuite nous allons nous poser deux questions afin de pouvoir parcourir le texte et essayer de tirer des enseignements pour une application individuelle et peut-être collective. 1 Corinthiens 10, versets 23 à 33. Si vous avez vos Bibles, nous pouvons lire ensemble. 1 Corinthiens 10, versets 23 à 33. Lisons. Oui, tout m'est permis. Mais tout n'est pas bon pour moi. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de regarder, de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser des questions par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments. Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira, sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, cette viande a été offerte en sacrifice à une idole, alors n'en mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi en effet exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si manger en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi, que vous mangiez, que vous viviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je cherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. En considérant ce texte, nous nous poserons deux questions pour essayer de tirer des applications pratiques pour notre vie individuelle. Nos actions, nos décisions, nos choix, nos attitudes nous conduiront-ils à la liberté ou à l'esclavage? Sont-ils source d'achoppement ou d'une édification pour mon frère ou pour moi? Est-ce que je cherche mon propre plaisir ou la gloire de Dieu? Voici deux questions qui peuvent nous amener à la réflexion. Mais j'aimerais déjà attirer l'attention de tous que ce n'est pas la liberté religieuse dans un contexte de persécution ou de la laïcité ou de la liberté de conscience inscrite dans la Constitution ou qu'on énonce ici, qu'on aimerait voir ici. C'est vraiment une liberté de la mise en pratique de notre foi, dans nos relations, comment nous pouvions mettre notre liberté en action et vivre notre foi d'une manière en glorifiant Dieu. Pour cette raison, j'aimerais que nous puissions répondre à ces deux questions en passant d'abord par le premier point. Dieu a créé l'homme libre, mais avec une responsabilité. Dans le jardin d'Éden, comme nous pouvons le voir dans Genèse 3, nous voyons que Dieu a permis à l'homme, oui, de tout profiter de tout ce qui est dans le jardin. Il a donné la liberté à l'homme, à Ève et à Adam et Ève. Mais leur responsabilité, est-ce qu'ils l'ont utilisée? Ça va, nous voyons ici dans Genèse 2, verset 17, que 16 à 17, que leur liberté n'a pas été soutenue par leur responsabilité. Nous lisons Genèse 2, verset 17, 16 à 17. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme de manger librement les fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre, de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Le choix, la liberté face au choix. Nous voyons que nos deux grands arrière-grands-parents n'ont pas soutenu leur liberté par une responsabilité qui se doit. Tout m'est permis, mais est-ce que mon choix me conduira-t-il à l'esclavage du péché? Mes choix sont-ils utiles? Ne feront-ils pas chuter un frère ou une sœur non affermie dans la foi? C'est la question que nous pouvions peut-être nous poser en répondant à cette question. Est-ce que mes choix ne sont pas des pierres d'achoppement, des sources d'achoppement, ou ce sont des choix qui permettent à l'autre d'être édifié, d'être encouragé et d'être fortifié dans sa foi. Nous voyons que notre liberté a besoin d'être soutenue par notre maturité au niveau de notre responsabilité. Tout nous est permis, mais est-ce que cela va permettre que l'autre puisse avancer dans la foi, puisse voir un épanouissement dans sa foi? La maturité consiste à tempérer notre liberté par notre responsabilité. Autrement dit, ce n'est plus une liberté, mais de l'anarchie. La liberté sans limite n'est pas une liberté. Et ensuite, nous voyons que notre liberté non seulement peut être soutenue par la maturité de notre responsabilité, mais aussi par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Notre liberté est utilisée dans l'amour et selon les enseignements de Christ. Matthieu 22, 38, 39, Paul utilise ce même principe pour étayer ses arguments à travers le texte que nous venons de lire. Matthieu 22, versets 38 à 39 dit que d'aimer, voilà ce que Matthieu 22, 38, 39 dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas lui faire du mal. Même si tu as la liberté de faire quelque chose, tu vas penser à lui. Je suis libre de faire ceci, cela, mais est-ce que ma liberté ne va pas causer un tort à mon prochain et je vais permettre que ma responsabilité puisse canaliser ma liberté. L'amour que Dieu produit en nous permet de mieux utiliser notre liberté, et même si le Seigneur nous a accordé cette liberté-là. Mon deuxième point, ce serait la liberté face à la responsabilité. Quelle est notre responsabilité si le Seigneur nous a donné la liberté, si le Seigneur nous a libérés, s'il nous a donné de faire le choix de le connaître, de savoir que c'est lui le Seigneur, c'est lui notre Seigneur, c'est lui vraiment qui a pris la place, la première place dans notre cœur. C'est lui qui nous a libérés du péché, c'est lui qui nous a permis de le connaître et d'avancer avec lui et de remplir nos cœurs d'amour. Quelle est maintenant notre responsabilité si nous sommes libres comme il nous l'a donné? J'aimerais nous interpeller par rapport à ce que Paul a dit. Souvent, nous pouvons penser que si notre liberté est limitée à la conscience de l'autre, ce n'est plus une liberté. On peut se dire, ah, mais si ma liberté, comme dit l'adage, se limite à la liberté, se limite à la liberté de l'autre, de mon voisin, de mon frère, de celui qui est en face de moi, est-ce que cette liberté est réellement une liberté? Mais Paul va nous répondre en disant que nous sommes responsables de glorifier Dieu en toutes circonstances. Verset 31, glorifier Dieu en toutes circonstances. Cela nous montre que on ne peut pas glorifier Dieu en causant la chute de notre frère, de notre sœur. Si nous voulons glorifier Dieu en toutes circonstances, nous chercherons coûte que coûte à garder notre frère, à garder notre sœur, afin que sa foi puisse continuer de progresser et d'avancer. À ce titre, l'exemple du peuple d'Israël est vraiment frappant. Dieu libère le peuple en Égypte. Il les libère de l'esclavage. Ils sont libres. Ils étaient équipés. Ils étaient dans la joie de pouvoir maintenant sortir et de traverser le désert et aller à Cana. Mais en regardant, en lisant le Genèse, Exode 13, verset 17, nous voyons que Dieu décide lui-même, dans sa propre souveraineté, de permettre que le peuple n'arrive pas directement à un jour. Nous savons que Israël, Égypte, normalement, s'ils avaient pris le chemin le plus court, c'était pour un jour seulement. Et cela est vérifiable avec Isaac, Abraham, Isaac, Jacob et tous ces personnages de la Bible sont venus en Égypte pour chercher des provisions et repartir, mais je ne pense pas qu'ils ont fait autant de temps que le peuple d'Israël. Et je me pose la question, pourquoi le peuple a pris 40 ans pour arriver à Cana? Et là, nous pouvons retrouver la réponse dans le texte d'Exode 13, verset 17. Lisons. Quand le Pharaon y laissait partir le peuple d'Israël, Dieu ne les conduisit pas par la route, par la route la plus, par le pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe, car il s'était dit, s'ils devaient affronter des combats, ils pouvaient regretter leur départ. Ils vont retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour pour vers le côté du désert, le côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent Égypte bien équipés. Donc, nous voyons dans ce texte de Exode 13, verset 17, que le peuple pouvait aller directement, pouvait arriver directement dans le pays promis, mais le Seigneur a choisi d'une manière souveraine de permettre qu'il ne passe pas là, parce qu'ils vont regretter leur départ d'Égypte. Et là, c'est aussi peut-être pour nous une occasion de nous rappeler que tant que notre responsabilité n'est pas bien affermie, la liberté peut être dangereuse plutôt. Parce que la liberté peut nous conduire à abandonner la foi. La liberté peut nous conduire à aller vraiment en décor de ce que Dieu nous veut nous donner. Et donc, pour notre bien, Dieu va utiliser le temps. Dieu va nous permettre de renforcer notre liberté, d'affermir notre liberté jusqu'à ce que nous puissions bien l'utiliser d'une manière qui correspond à la volonté de Dieu, qui glorifie le Seigneur. Deuxième élément de notre responsabilité est de glorifier Dieu, mais aussi d'édifier nos frères et nos sœurs. Notre responsabilité consiste à édifier nos frères et sœurs dans la foi, à rechercher leur bien, leur intérêt d'une manière publique ou d'une manière privée. C'est ce que nous avons lu en Philippiens 2, versets 1 à 5, cette semaine-là, dans la semaine. Nous avons vu que la recherche de l'intérêt de l'autre, se soucier à l'autre, penser que l'autre peut être dans des difficultés, il a besoin d'être exhorté, d'être encouragé, est quelque chose qui est vraiment de notre responsabilité. Et lorsque nous l'utilisons, ça permet que notre liberté soit plus affermie, soit plus encore plus fort que le Seigneur veut. Lorsque nous sommes dans une attitude de recherche à édifier nos frères et sœurs, nous nous sentons plus forts dans notre responsabilité, afin de permettre que notre liberté puisse être utile, puisse être utilisée dans un contexte très utile. Ensuite, le troisième élément de notre responsabilité, c'est d'attirer les non-croyants à Christ. Si nous utilisons notre liberté, comme dit le verset 32 à 33, face aux non-croyants, nous pouvons soit mettre des obstacles devant eux ou soit les attirer à Christ. Je sais que nous tous, nous avons besoin d'attirer ceux qui ne connaissent pas le Christ vers le Christ. Ceux qui n'ont pas entendu parler de lui, qu'ils puissent entendre parler de lui. Si notre liberté ne les attire pas, ça veut dire que nous devons poser une question. Est-ce que j'utilise d'une manière juste ma liberté? Paul dit dans ce texte que si un non-croyant vous invite chez lui et il vous donne à manger sans vous dire c'est cachère ou pas, mangez sans discussion, parce que ça ne sert à rien de demander, de poser des questions. Sinon, vous allez, s'il vous dit que c'est du cachère et vous dites non, je ne mange pas, ça risque d'être une compromission. Et si peut-être un non-croyant est à côté de vous en utilisant votre liberté, vaut mieux penser à lui. Qu'est-ce qu'il va, est-ce que cela va l'alerter ou cela va lui édifier, que d'utiliser sa liberté. Si notre liberté est bien utilisée, l'évangile est accessible. Si notre liberté est bien utilisée, l'évangile est accessible. C'est pourquoi Paul s'efforce à s'adapter à tous. Paul ne suggère pas que de faire des compromis avec le monde, mais il agit en conséquence de ce principe. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce matin, sincèrement, j'aimerais nous appeler, parce que nous avons une liberté qui est précaire à la sortie de demain. On ne peut pas se retrouver tous, mais quand même, on aura l'occasion de souffler, de sortir, de vaquer à certaines occupations. Mais comment pouvons-nous utiliser à bon escient notre liberté? Que notre liberté nous pousse à faire des bons choix. Que notre liberté puisse nous montrer, nous permettre d'affermir notre foi. Que notre liberté soit utilisée dans l'amour. Que le Seigneur nous aide et nous permette vraiment de vivre cette liberté qu'il nous a accordée en lui avec beaucoup d'amour et dans une responsabilité. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La manière dont nous utilisons notre liberté et agissons à l'égard des autres est un indice de notre maturité en Christ. Si nous utilisons notre liberté, c'est vraiment dans le sens de l'amour, c'est dans le sens de la responsabilité, c'est dans le sens d'édifier, c'est dans le sens de glorifier Dieu et c'est dans le sens vraiment d'attirer des âmes à Christ. Que demain, on ne peut pas se retrouver à l'église, mais chacun sera libre, vraiment goûter, vraiment d'une manière concrète, c'est que le fait d'aller dans les parcs, le fait d'aller dans la forêt, se promener et de goûter à une certaine liberté que que nous allons avoir, mais simplement utilisons cette liberté vraiment dans un sens qui glorifie le Seigneur. Parce que la maladie est là et ça peut être aussi dangereux de l'utiliser d'une manière qui ne correspond pas à la gloire de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous aide vraiment à profiter de cette liberté que nous avons et surtout d'attirer des âmes à Christ, d'édifier nos frères et sœurs et de partager des moments qui l'honorent et qui le glorifient. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Tu nous parles à travers ta parole dans 1 Corinthiens 10, versets 23 à 33. Dans ces 10 versets, tu nous rappelles simplement que nous sommes libres. Nous sommes libres parce que tu nous as libérés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu nous as libérés en Christ. Tu nous as permis, Seigneur, de faire le choix de te connaître comme Seigneur et comme Dieu. Tu nous as permis, Seigneur, d'être libérés du joug du péché. Tu nous as permis, Seigneur, d'affermir notre liberté par l'amour que tu remplis dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons te dire merci de toute cette liberté que tu nous as donnée. Mais nous voulons aussi, oui, éternel Dieu, te remettre notre responsabilité. Aide-nous à mieux utiliser, Seigneur, notre liberté, Seigneur, pour te glorifier, pour ta gloire. Aide-nous à utiliser notre liberté, Seigneur, pour attirer des âmes à toi, pour attirer des personnes qui ne te connaissent pas, à te connaître, à connaître ta parole, à utiliser, Seigneur, notre liberté pour édifier les frères et sœurs et à les faire du bien, à permettre que, Seigneur, tout ce que nous allons faire, que cela puisse contribuer à ce que chacun soit affermi et qu'il puisse avancer dans la foi avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes et parce que tu nous as libérés. Permet que, Seigneur, toute action, tout comportement, toute chose que nous allons faire puisse vraiment refléter réellement que nous sommes libres en toi. Libres en toi pour faire le bien, libres en toi pour t'aimer, libres en toi pour, Seigneur, honorer ton nom dans tout ce que nous sommes. Que toute la gloire, l'honneur te revienne, Seigneur, parce que tu es celui qui gouverne tout et celui qui donne tout selon la mesure. Oui, éternel Dieu, que tu donnes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Voilà, c'est l'exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur pour chacun de nous et que cette parole puisse nous aider à vraiment continuer à lui faire confiance et que nos vies puissent glorifier son nom.
Merci beaucoup, Zulaï.